Désolé pour ceux qui sont là pour la première fois. Vous voyez le thème de ce qu'on va parler, l'argent dans la Bible. Hein? Il y a quand même 2300 versets dans la Bible qui parlent de l'argent. Deux tiers des paraboles, des petites histoires que Jésus raconte, ça parle plus ou moins de l'argent, des biens, etc. Nous sommes presque constamment en lien avec, confrontés avec les questions financières. Et je sais, si on parle maintenant des finances, alors il y a dans votre tête un certain système de défense qui va s'installer. Hein? Soit c'est une forteresse, ça ferme toutes les portes, j'entends pas. Soit vous avez des boulets de canon que vous aimeriez tirer. Voilà, les évangéliques et l'argent. Voilà. Jusqu'à présent, ils parlaient de l'amour. C'est bien. Et maintenant, tout à coup, voilà, le piège qui va arriver. Maintenant, il veut quand même nos sous. Hein? Voilà. Alors, il y a tout plein de systèmes d'alarme qui vont se déclencher chez vous. Vous me connaissez peut-être maintenant déjà un petit peu. J'aimerais vraiment vous partager ça en toute humilité, hein, sans vous mettre la pression en quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment pas mon but. Mais je pense que c'est bien de temps en temps de parler de ce que la Bible nous dit sur l'argent. L'Église ne fait pas d'exception. Qui paye le loyer? Qui paye la sono? Qui paye le pasteur? Ah oui, parce qu'il y a un salaire derrière, etc. Comment on fait qu'une église tourne? Ah voilà. Seulement par exemple, ça c'est une famille missionnaire. Une famille missionnaire avec, c'est pas ça que je gagne par mois, mais avec tous les charges. Si vous savez un pasteur dans une église ou un vendeur d'œuvres ou quelque chose n'importe, il faut compter 3000 euros par mois. C'est le salaire avec tous les charges, avec tous ceux que tu dois payer à la retraite, etc., etc., etc. Ça va coûter à peu près 3000 par mois. Et après, ici, on a la chance, on ne paye pas beaucoup. Mais après, vous avez peut-être une église. Peut-être pas cette église-là, elle vient quelque part en Suisse, hein, c'est une église catholique, très moderne. Hein. Mais voilà, vous avez peut-être 1000 euros par mois pour ce qui est bâtiment, salle, etc., avec tout ce qui va avec, parce qu'il y a chauffage, il y a assurance, etc. Hein. Comment ? Voilà. Alors par exemple, je vous dis simplement, là, les 3000, là, pour moi, nous, on est venu en France en 1991 et on est ici en tant que missionnaire. Alors, d'où vient cet argent? C'est plus que ça, parce que la Suisse, vous connaissez que c'est plus cher. Cet argent vient de mes amis ou de mes connaissances qui habitent en Suisse. Ou une église qui donne depuis 30 ans, chaque mois, l'argent pour que... J'aurais même la liste. Je pourrais vous montrer parce que vous ne connaissez personne. Il y a par exemple Martin Keilever. 5000 euros par an, il nous donne. C'est beaucoup. Je ne le connais même pas. Il est jeune, il a peut-être une trentaine d'années. Là, je ne connais pas. Il donne 400 euros par mois pour nous, par exemple. Seulement pour un... Il y a Matthias Zürcher. Lui aussi, c'est autour de ça. Il n'est même pas chrétien. Mais on le connaît depuis des années. Lui, il a peut-être l'âge de Christina, à peu près, non? Un peu plus jeune. Voilà. Et lui aussi, il donne à peu près 400 euros par mois. Depuis 30 ans, Ou depuis 20 ans, je dirais. Alors, de là vient cet argent. Parce qu'il y a des amis ou des connaissances qui sont là et qui disent « Ah, la famille Schneider, ils sont sympas. Alors, on va leur donner chaque mois quelque chose pour qu'ils puissent vivre et faire ce ministère. Ça, je dis que comme ça, pour vous voyez, ah voilà, ça vient de quelque part. Hein, si on parle déjà de l'argent. Alors, si je parle de l'argent aujourd'hui, je ne vais pas parler trop de clichés. Même les très, très riches, ils savent que l'argent ne rend pas heureux. Ils ne sont pas bêtes non plus. Parfois, dans les livres, on peut dire, ah voilà, l'argent, mais même eux, ils savent que c'est comme ça. Et nous savons tous que ceux qui gagnent au loto, souvent, ça éclate un couple, ça éclate tes amis. Ça, on sait aussi. Hein. Mais ce n'est pas ça la question. Aujourd'hui, ce n'est pas ça la question. La question est, quelle est ta relation avec l'argent? C'est ça la question. Quelle est ta relation avec l'argent? Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vécu, quand vous voulez parler avec quelqu'un de Jésus, hein, vous donnez votre témoignage, vous racontez comment vous avez vécu ça, et votre vis-à-vis, à un moment, il va dire, oui, mais on sait l'Église catholique, on sait tout ce qui se passe là-dedans, avec tous ces trucs avec les gamins, et on connaît les églises évangéliques qui sont que derrière les sous en Amérique, etc. On sait tout ça. On veut toujours chercher des questions pour se défiler de la vraie question. Alors on sait que beaucoup d'argent est utilisé pas bien. On sait ça. Mais ce n'est pas là la question que je pose. La question est, quelle est ta relation avec l'argent? C'est ça. Hein, ce n'est pas une question de donner, c'est seulement de réfléchir, qu'est-ce que je fais? Alors, l'un de moi de dénigrer les gens riches. Ils sont riches. Je sais que vous avez peut-être aussi lu les 10 hommes les plus riches. Ils ont gagné pendant la pandémie 1,6 billion de dollars en plus. Vous vous rendez compte? Nous, on aimerait chercher une salle, hein, acheter une salle. Disons, ça coûte 300 000. Ils pourraient nous acheter 5 millions de salles à 300 000. 5 millions de ça. Et ça, ils sont que gagnés à cause de la bourse. C'est ça. C'est comme ça. Mais je ne veux pas prendre leur place. Hein, du tout. Jésus a dit, si quelqu'un a beaucoup reçu, on exigera beaucoup de lui. Et plus on vous aura confié, plus on demandera de vous. Mais de l'autre côté, je ne veux pas non plus dire, ah voilà, l'Ancien Testament nous dit, il faut être pauvre. Il faut tout donner. Non. C'est vrai, dans l'Ancien Testament, on trouve pas mal de gens riches. Hein? Abraham, Job, Salomon, hein, des gens très, très, très riches. Mais pourquoi ils avaient tellement d'argent? Aussi, parce que c'était leur seul... Je dis maintenant une chose bête, espérance. Ils n'avaient pas d'espérance d'une future vie, d'un ciel avec Dieu et tout ça. Leur vie était ici, sur terre. Ce n'était pas dans un au-delà. Et dans le Nouveau Testament, on peut parfois croire que, ah voilà, le mieux c'est de rien avoir. Mais ce n'est pas vrai. Hein. Paul dit, un ouvrier mérite son salaire. La pauvreté est un manque, une détresse, une souffrance. Et vous savez que parfois on peut penser, waouh, aujourd'hui on est très moderne, on a la sécurité sociale. C'est Dieu qui a inventé la sécurité sociale. C'est pas nous, c'est pas les Français. Il n'y a rien de nouveau, hein, je dis avec Alex, hein, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Deutéronome. Ah, j'ai les textes, je crois. Ouais. Deutéronome 24. Quand tu moissonneras ton champ, si tu oublies une gerbe dans le champ, ne retourne pas pour la ramasser. Laisse-la pour l'immigré, pour l'orphelin ou la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout ce que tu entreprendras. Quand tu secoureras tes oliviers, ne cueille pas ensuite ce qui reste aux branches. Ce sera pour l'immigré, l'orphelin ou la veuve. T'es même quand tu vendangeras ta vigne, n'y reviens pas pour grappiller ce qui reste, ne serait-ce pour l'étranger, l'orphelin et la veuve. Et après, il va plus loin. Hein? Tous les 3 ans, vous prélèverez toute la dîme des récoltes de cette année-là et vous la déposerez à l'intérieur de votre ville. Alors les Lévites, qui n'ont pas de part de patrimoine foncier comme vous, viendront ainsi que les immigrés, les orphelins et les veuves qui habitent dans votre ville et ils mangeront à satiété. Alors l'Éternel, votre Dieu, vous bénira dans tous les travaux que vous entreprendrez. Waouh, c'est Dieu qui a instauré la sécurité sociale. Hein. Laissez pour les pauvres. Et même tous les 3 ans, je ne sais pas comment ça a exactement passé, mais ramassez pour qu'eux aussi, ils ont. Il y a Salomon, dans sa sagesse, qui nous donne l'idéal à suivre. Et ça, c'est vraiment Proverbes, chapitre 30, versets 7 à 9. Éternel, je te demande 2 choses. Ne me le refuse pas avant que je meure. 2 choses, il demande. Hein. Garde-moi de dire des paroles fausses ou mensongères. Première chose qu'il demande. Deuxième, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi seulement ce qui m'est nécessaire pour vivre. Car dans l'abondance, je pourrais te renier et dire « Qui est l'Éternel ?» Ou bien, pressé par la misère, je pourrais me mettre à voler et déshonorer ainsi mon Dieu. Il écrit ça il y a 3000 ans, plus. Hein. 2 choses, il veut. Vraiment une bouche qui dit que la vérité et le contentement. Être content avec ce que j'ai. Depuis tout petit, je suis un lecteur assidu. Comment dire ça? C'est français, ça? Assidu? Ça a commencé avec L'île au trésor. Je ne sais pas si vous connaissez, hein, c'est L'île au trésor, hein, Moby Dick. Wow, un livre que j'ai lu, je ne sais pas combien de fois. Hein. Le dernier de Mohican, hein, ça c'était les livres de mon époque. Hein, plus tard, quand j'ai grandi, c'était la Bible. Hein, je ne sais pas combien de fois je l'ai lu. Hein, c'est pas. Hein. Et Le Seigneur des Anneaux. Oh là là, combien de fois je l'ai lu. Hein. DVD à 16 ans, toujours à nouveau. Hein, et après, ça c'est toujours le meilleur, hein, je raconte à vous. Hein. Et après, il y avait toujours un pasteur qui est passé de temps en temps et a dit, « Ah, c'est pas bien, Seigneur des Anneaux, il y a des sorcières, des dorons et tout ça. » Et alors nous, hein, en tant que jeunes scellés, on a dit, « Ah, on ne veut pas ce livre, on l'a brûlé. Hein, » parce qu'on ne voulait pas un livre qui... Et 1 an plus tard, on l'a re-acheté, on l'a à nouveau lu, et finalement pour le jeter à nouveau quand y a un qui est passé. Voilà, c'était la jeunesse. Hein, c'est... Et il y a un autre livre que j'ai lu plusieurs fois, Le nom de la rose. Vous connaissez ? Le nom de la rose. Ça joue au Moyen-Âge, dans un monastère. C'est un peu Sherlock Holmes et Dr. Watson. Hein, c'est Guillaume, Sherlock Holmes avec Atso, voilà, le docteur Watson. Hein, il va résoudre un énigme, un livre superbe. Et là-dedans, il y a une sorte de convention entre les gens du pape d'un côté et les gens de l'empereur de l'autre côté. Et la question qui se pose, les gens là, est-ce que les vêtements que Jésus portait appartenaient à Jésus, oui ou non? Alors, les papistes, ils ont dit oui, les vêtements que Jésus portait étaient à lui. Et ceux de l'empereur, ils ont dit non, n'étaient pas à lui. Mais c'est une question politique, hein, n'importe. Hein, c'est un... Mais cette question semble ridicule. Hein? Mais pourquoi on peut poser une question pareille? Mais vous savez que la réponse à cette question-là va déterminer votre relation avec l'argent. Dit, c'est à moi qu'appartient tout l'argent et tout l'or. Voilà ce qui déclare le Seigneur des armées célestes. À moi appartient tout l'argent et tout l'or. Et si on peut prendre une petite parabole en Luc chapitre 2, il leur raconta alors cette parabole. Le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. L'homme s'est mis à réfléchir. Que faire ? Se demande-t-il. Je n'ai pas assez de place pour engendrer toute ma récolte. Ah, se dit-il enfin, je sais ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grands. Et j'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Après quoi, je pourrais me dire, mon ami, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de ta vie. Mais Dieu lui dit, pauvre fou que tu es, cette nuit même tu vas mourir. Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Voilà qui sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même, au lieu de chercher d'être riche auprès de Dieu. Tout l'argent appartient à Dieu. Tout ce que j'ai appartient à Dieu. Si Dieu est le propriétaire de ce que j'ai, alors moi je ne suis que le gérant. Le gérant du bien que Dieu me donne. Si je suis prêt à accepter cette idée, hein, ça peut être pour nous un soulagement et en même temps un défi. Dieu fait tout. C'est lui le propriétaire. C'est lui qui va s'occuper de moi. Comme on dit, il peut lire dans les évangiles. Hein, c'est le Seigneur qui s'occupe de ses enfants. Est-ce moi le propriétaire de mes biens ou est-ce Dieu qui l'est? Est-ce que ça change quelque chose? Bien sûr que oui. Parce que l'argent a un certain pouvoir. 1 Timothée 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonnés, certaines se sont égarées très loin de la foi et se sont infligées beaucoup de tourments. La question n'est pas que fais-je avec mon argent? La question est qu'est-ce que fait l'argent avec moi? Hein, c'est ça la bonne question. Matthieu 6, 24. Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres. Car ou bien il détestera l'un et l'aimera l'autre. Ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Si c'est toi qui es le proprio, je sais, pour ceux qui connaissent maintenant très bien leur Bible, Et ils se sont peut-être déjà beaucoup réfléchi sur ces versets et tout ça. Ils savent que ici, l'argent, il y a le mot mammon. Hein? Et il y a certains qui disent, mammon, Jésus a pris un dieu pour ça. Mais j'ai vraiment de recherches et il n'y a vraiment rien qui est vraiment sûr. Hein? Il y a, on tire, il y avait un peuple, soi-disant, qui avait un dieu qui s'appelait mammon, mais on n'a trouvé aucune trace. Et pourquoi Jésus devrait utiliser un dieu qui habite, je ne sais pas où les gens ne le connaissent pas, pour une phrase. Alors, l'idée est claire, voilà, il n'y a pas de maître. Hein. Et l'argent n'est pas rien. Hein. L'argent peut avoir le pouvoir sur notre cœur. Je pense que ça, c'est clair. Alors, si c'est toi qui es le proprio, ben alors, qu'est-ce qui se passe? Tu gères selon ton bon plaisir et tu donnes, si les finances le permettent, peut-être la dîme. Si c'est toi le proprio, c'est la façon de faire. La dîme, tout le monde sait ce que c'est, peut-être pas. Hein? La dîme, c'est dans l'Ancien Testament, c'était comme le peuple a donné 10% de tout ce qu'ils avaient. S'ils avaient fait une récolte, les premiers 10%, ils ont donné au temple, à Dieu, pour le service, etc. Hein? Ça, c'était dans la Bible la dîme. Hein? C'est les 10% qu'ils ont donné. Il faut comprendre que le peuple d'Israël était divisé en 12 tribus. Et un de ces tribus, c'était des Lévites. Et les Lévites, ils n'avaient pas de terre parce qu'ils servaient Dieu dans le temple. Alors, ils n'avaient pas de revenus. Alors, les 10% que le peuple a donné étaient pour faire vivre ce 12e tribu. Ça, c'était l'idée. Hein? Ils ont gardé. Alors, on donne le 10e de tout ce que tu as. D'abord, hein, c'était la première chose que tu donnes. Je ne sais pas, ah voilà, tu gardes d'abord et à la fin, oui, s'il reste, tu donnes. Le premier 10%, mais voilà, c'est ça. Alors, il y a un verset qui me suit depuis que je suis gamin. Apportez donc vos dîmes. Je regarde seulement est-ce que c'est le bon. Hein. Dans leur totalité, dans le trésor du temple, pour qu'il a des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des années célestes. Alors, vous verrez bien si de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Bien sûr, aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la loi. C'est clair, nous sommes sous la grâce. Hein. Il ne faut pas chercher toutes les lois dans l'Ancien Testament et paf, paf, il faut les... Mais, les promesses de l'Ancien Testament reste valable avec loi ou sans loi. La promesse reste, si tu es prêt de donner, Dieu va te donner en plus. C'est ça l'idée de la Bible. Hein? Et je dirais, si c'est le Seigneur qui est le proprio de tes biens, tu gardes ce que tu as besoin pour vivre et le reste, tu investis dans la banque céleste. C'est ça l'idée de la Bible. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. L'idée dans la Bible est, avec chaque chose que tu donnes, avec chaque euro que tu donnes, je dis n'importe, hein, tu amasses un pactole au ciel. Rien n'est perdu. C'est là quelque part. Comment ça va être utilisé? Je ne sais rien. Quand tu arrives, tu vas avoir un compte en banque de ouf. Hein, hein, peut-être, hein. Je ne sais pas comment tu vas le recevoir, ou etc. Peut-être même avec tes intérêts. Hein. Hein. Mais l'idée est là. Ce que tu investis dans le royaume de Dieu n'est jamais argent perdu. C'est ça l'idée de la Bible. Jamais argent perdu. Tu vas en profiter un jour d'une façon ou d'une autre. 1 Timothée 6, verset 18-19. Recommande-leur de faire le bien, d'être riche en œuvres bonnes, d'être généreux et de partager avec les autres. Ils assureront ainsi pour l'avenir un beau capital placé en lieu sûr afin d'obtenir la vraie vie. Ouais. Pour la Bible, la générosité n'est pas une option. Hein, quelques versets. Tout au début, Deutéronome 15, verset 11. En fait, il y aura toujours des nécessités dans le pays. C'est pourquoi je t'ordonne d'ouvrir toute grande ta main à ton compatriote, ou malheureux, ou pauvre dans ton pays. Toute grande ta main. Aujourd'hui, c'est plus possible. À mon époque, quand j'avais votre âge, ou à plus jeune, on était peut-être plus fous. Quand on a entendu quelque chose, on l'a fait. Hein, parce qu'on voulait vraiment vivre authentiquement la vie avec Jésus. Alors, si quelqu'un nous a parlé de donner, alors on a pris notre porte-monnaie à la fin du culte, on a tout mis. Tout ce qu'on avait. On a vidé tous nos comptes bancaires, paf, on a tout donné. Après, ça durait à nouveau, jusqu'on avait à nouveau, jusqu'à... Hein, paf. Dieu aime celui qui donne et qui ne réfléchit pas toujours. Ah voilà, est-ce que c'est vraiment un... Parce que parfois on se fait, est-ce que c'est le bon endroit? Qu'est-ce qu'ils font avec l'argent? Hein, on a tout plein de questions comme ça. Mais si je donne à l'église, oh là là, le ventre du pasteur va aussi agrandir, etc. Est-ce que c'est vraiment bien utilisé, etc. On ne se pose pas des questions comme ça. Hein, on donne pour le Seigneur. Et le Seigneur, il fait de cet argent ce qu'il veut. Faire le bien, négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Et 1 Jean 3, verset 17. Si un riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne pas être présent en lui. Donner comme quelque chose qui fait partie de notre ADN. Notre ADN en tant que chrétien. Je suis prêt à donner. Dieu aimerait que nous soyons des bons questionnaires. Et je vais terminer, j'ai assez longtemps parlé, avec la règle d'or. Parce qu'il y a une règle d'or. Vous savez, même pour toutes les lois, qui est dans la Bible, il y a la formule d'or. Hein? On peut dire ça comme ça. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. La règle d'or de la Bible, hein? Qui est valable depuis toujours et pour toujours. Il ne faut pas savoir plus, hein? Si tu sais ça et si tu pratiques ça, tu es bon. Et il y a une règle d'or aussi aux questions de finances. Je vais vous la passer. De Corinthiens 9, verset 7. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec choix. Et ça, l'aigle d'or. L'aigle d'or, ce n'est pas que je vous dis, voilà, donnez 10%. Non. Là, la règle d'or n'est pas donner tout ce que vous avez. Hein, sortez. Non, vous ne pouvez plus faire parce que vous n'avez que des cartes bancaires, vous n'avez plus de monnaie. Il n'y a pas beaucoup qui sort. Hein. C'est ça, la règle d'or. Que chacun donne ce qu'il aura, lui, décidé en son cœur. Sans regret ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec choix. Pour moi, c'est ça le verset référent. Si tu le mets en pratique, tu ne peux pas te tromper. Et je pense que vous avez compris à tout ce que je viens de dire. Ce n'est pas du tout pour vous mettre mal à l'aise en quoi que ce soit. Ce que je veux, c'est instaurer dans votre cœur un certain détachement. C'est ça que j'aimerais. Que vous avez dans votre cœur un certain détachement. Vous n'avez jamais moins si vous donnez des bons cœurs. Vous n'avez jamais moins si vous donnez des bons cœurs. Détachez-vous. Détachez-vous de ramasser tout simplement. Hein. Laissez le Seigneur être le propriétaire de votre vie, de ce qu'il vous donne. Réfléchissez ce que vous pouvez donner. Où sont les personnes qui ont besoin? Est-ce que c'est l'Église qui a besoin? Voilà, peut-être. Hein. Réfléchissez dans votre cœur, dans votre vie. Vous n'avez jamais moins si vous donnez de bon cœur. Car, vous rappelez, Dieu aime celui qui donne avec joie.